Et à 8h, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La situation est confuse au Venezuela ce matin. Le pays s'est endormi avec deux présidents. L'un élu et contesté, Nicolas Maduro. L'autre autoproclamé, il s'appelle Juan Guaido. Et il est déjà reconnu par certains pays voisins. Nous y reviendrons en détail.
Et dans cette édition, nous essayerons de comprendre avec quelle indemnité Carlos Ghosn pourrait quitter Renault. Toujours emprisonné au Japon, il a démissionné cette nuit.
Les lycéens dans les rues aux côtés de leurs professeurs ce jeudi. Mobilisation générale dans l'éducation nationale et les motifs d'insatisfaction, vous l'entendrez, sont nombreux, de la réforme du baccalauréat à Parcoursup.
Les Français ont de moins en moins confiance dans les médias après la mobilisation des Gilets jaunes. C'est le constat fait par le baromètre annuel de la Croix et Kantar Sofres. Nous l'analyserons.
Après ce journal, Frédéric Seyss se demandera dans son billet politique si le gouvernement est en train de rogner sur les libertés publiques. Il est passé de l'ombre à la lumière en quelques semaines. Juan Guaido, jeune député de l'opposition au Venezuela, 35 ans, s'est proclamé président par intérim du pays. L'annonce a été faite en plein milieu de la capitale Caracas hier devant des dizaines de milliers de manifestants.
Devant Dieu Tout-Puissant, Venezuela, avec respect envers mes collègues de l'Assemblée nationale, je jure d'assumer officiellement les pouvoirs de l'exécutif national. En tant que président en charge du Venezuela.
Et voilà donc face à Nicolas Maduro au Venezuela, un deuxième président pourrait-on dire. Bonjour Olivier Poujade.
Bonjour Clara.
Spécialiste de l'Amérique latine pour France Culture, Juan Guaido a clairement été porté par la foule quand il a lancé hier ce défi.
Défi lancé hier en fin d'après-midi. La nouvelle figure de l'opposition, Juan Guaido, invoque l'article 233 de la Constitution vénézuélienne qui indique qu'en cas de faute grave du chef de l'État, le président du Parlement a la possibilité de s'autoproclamer président par intérim. Guaido, jeune ingénieur de 35 ans, la main droite sur la Constitution vénézuélienne, est poussé par des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Caracas, affirme donc qu'il assumera cette responsabilité.
Le flou, on le comprend, est donc complet pour le moment dans le pays. Pourtant, Olivier, nombreux ont été les pays voisins à apporter leur soutien à Juan Guaido, les États-Unis en tête.
Et très rapidement, après cette déclaration, dans un communiqué, le président américain Donald Trump écrit qu'il reconnaît Guaido comme nouveau président par intérim du Venezuela. De nombreux pays se placent dans le sillage des États-Unis, notamment la Colombie et le Brésil, voisins du Venezuela, mais également le Canada, l'Argentine et le Paraguay. L'Union européenne réclame, elle, l'organisation de nouvelles élections dans les meilleurs délais. Nicolas Maduro est aujourd'hui sous pression. Il donne 72 heures de son côté aux diplomates américains pour quitter le pays. La situation reste extrêmement volatile et les interrogations se portent désormais sur l'attitude des militaires. Ce sera la clé dans les jours qui viennent. La garde nationale bolivarienne semble avoir décidé de rester fidèle à Nicolas Maduro, mais certaines scènes filmées par des manifestants, notamment dans la région Amazon, montrent une foule chassant des soldats de ce corps d'armée proche de Maduro. Maduro qui est aussi soutenu par le cartel des soleils, une poignée de généraux, une sorte de garde rapprochée du pouvoir en place. Difficile de dire si le rapport de force restera en leur faveur, car certaines casernes se sont aussi soulevées ces derniers jours et ont affiché leur soutien au président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido.
Merci Olivier Poujade pour ces précisions ce matin. Notons que la France dit suivre de près la situation et consulte ses partenaires européens avant de se prononcer sur cette situation. Carlos Ghosn a démissionné cette nuit de son poste de PDG de Renault. C'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui l'annonce ce matin. Voilà qui laisse donc la voie libre pour son ou ses successeurs. Car c'est à 10h tout à l'heure que le conseil d'administration de Renault va se réunir pour remplacer celui qui est toujours emprisonné au Japon pour des soupçons de malversation financière chez Nissan. Pour le remplacer donc, Jean-Dominique Senard, actuel président de Michelin, il est largement pressenti. Thierry Bolloré, directeur général adjoint, pourrait lui prendre le poste de directeur général chez Renault. Pas de surprise, a priori donc. Mais il va falloir aussi définir les éventuelles indemnités de départ de Carlos Ghosn. Elles sont définies selon plusieurs critères, notamment celui de sa rémunération. Voilà ce que souligne l'avocat d'affaires Grégoire Gauger. Il s'explique au micro de Stanislas Vazak.
Sa rémunération fixe, variable et ses indemnités de départ sont contrôlées par le conseil d'administration sur recommandation du Conseil de rémunération et surtout, c'est très important, sont revues et votées chaque année par l'Assemblée générale. Donc la rémunération de Carlos Ghosn, elle est tout à fait transparente. Vous le trouvez sur le document de référence de l'entreprise qui est publié sur Internet. La rémunération, vous avez sa rémunération fixe. Là, elle est plafonnée à 1 million. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. Et après, vous avez le variable. Alors le variable, le problème, c'est qu'il est assez complexe. Il y a une subdivision. Vous avez d'une partie 25% en cash et 75% en actions gratuites. Et ces actions gratuites, elles vont prendre en considération des éléments de performance de la société, de performance du dirigeant à la tête de cette société, et également nécessiter un certain laps de temps. Et on voit dans ce document de référence que c'est normalement jusqu'en 2022 que sont calculées sa rémunération. Donc là, il va y avoir un petit débat sur a-t-il droit, est-ce qu'il aura le droit à toutes les actions gratuites. Ça va se discuter. Et donc ça, c'est des choses, à mon avis, que le conseil d'administration aura bien en tête avant de prendre une quelconque décision.
L'avocat d'affaires Grégoire Gauger. Grève générale dans les lycées ce jeudi. Les professeurs sont appelés à manifester contre le mépris auquel ils disent faire face. Ils invitent lycéens et parents d'élèves à se joindre au mouvement, à se mobiliser contre les suppressions de postes également à la rentrée prochaine dans le secondaire, contre la réforme du baccalauréat, celle du lycée. Se mobiliser aussi contre Parcoursup, Victoria Coussin.
Devant ce lycée technologique du 14e arrondissement à Paris, Léa en terminale soutient la grève.
Bah oui, bien sûr, totalement.
Surtout pour contester Parcoursup, déjà très critiqué dans les cortèges lycéens avant les fêtes. Cette plateforme d'inscription en ligne vient de rouvrir et c'est l'angoisse de Léa.
Ça me fait peur, je repousse le plus possible. Vu que je veux faire un IFSI, c'est un institut de formation en soins infirmiers. Du coup, c'est par dossier, etc., vu qu'il n'y a plus de concours. Et tout passe par Parcoursup. Et moi, ça me tracasse un petit peu. Je suis un peu stressée, donc voilà.
L'état d'esprit des jeunes va se ressentir dans la rue, d'après Louis Boyard, président de l'Union nationale lycéenne.
C'est à double tranchant. Il y a des lycéens qui sentent qu'ils ne peuvent pas se mobiliser parce que, déjà, il y a la répression policière qu'on a eue au dernier mouvement qui démobilise. Et aussi, ils se disent, maintenant, ils vont regarder mon dossier. Ils vont regarder le moindre jour d'absence, donc je ne peux pas me permettre. Mais il y en a qui disent, de toute façon, je sais que j'aurai pas ce que je veux. Donc autant y aller et puis on espère que le gouvernement va changer sa ligne.
Faire marche arrière aussi sur la réforme du baccalauréat. Plus de filières mais un tronc commun et trois spécialités. Facteur d'inégalité entre les territoires d'après les enseignants et même entre les lycées d'après Frédéric Rollet, secrétaire général du syndicat SNES-FSU, majoritaire dans le second degré.
On développe le contrôle continu et on sait là aussi que l'image, à tort ou à raison, mais que l'image de tel ou tel lycée n'est pas la même et qu'ensuite on pourra vous dire... Et justement, y compris dans Parcoursup. Ah oui, mais vous, votre bac, vous l'avez eu dans un établissement qui est censé être plus facile dans l'évaluation des élèves.
Ce cercle vicieux impliquerait professeurs, parents, élèves, qu'elle espère nombreux à manifester ensemble aujourd'hui.
Et pendant ce temps, Emmanuel Macron va lui consacrer sa journée au grand débat national. Il se rend ce jeudi dans la Drôme pour un troisième échange avec les élus locaux. Changement de formule cette fois, ils ne seront plus 600 autour de lui, mais une soixantaine, écouté cette fois par quatre ministres ou secrétaires d'État dans le convoi du chef de l'État. Avant ce débat raccourci, Emmanuel Macron va rencontrer ce midi le président du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, un tête-à-tête qui ne s'était pas vu depuis près de 2 ans, Stéphane Robert.
Si Laurent Wauquiez a accepté l'invitation du chef de l'État à le rencontrer en tête-à-tête, c'est, dit-il, pour lui faire part de son analyse de la situation, des causes qui, selon lui, ont provoqué le malaise démocratique que connaît le pays, et de la manière dont il faudrait s'y prendre pour y remédier.
Contrairement à d'autres partis, les Républicains ne joueront pas la politique de la terre brûlée. Mais je vais à ce débat pour défendre très fortement la voix des Français. Et je le dirai au président de la République. Pourquoi est-ce qu'il a mis le feu au pays? Parce qu'il a augmenté les impôts sur les classes moyennes, sur ceux qui travaillent. Et c'est pas quelques primes gouvernementales qui répondent au sujet. Mais j'ai un conseil à donner au président de la République. S'il veut un vrai débat, c'est aller à la rencontre des Français.
L'idée de Laurent Wauquiez à travers cette rencontre est d'offrir l'image d'un leader politique responsable, pas comme les Marine Le Pen et les Jean-Luc Mélenchon, rangés dans le camp de ceux qui alimentent à dessein la contestation. C'est simple, explique un député de son parti, Les Républicains. Alors qu'il est très bas dans les sondages, Laurent Wauquiez veut se refaire la cerise en tant que leader de l'opposition. Mais il se trompe. Il ne se rend pas compte qu'il est invité en tant que représentant de la région et qu'il sera considéré par le président de la République comme un élu parmi les autres. Les conseillers du président à l'Élysée indiquent de leur côté que c'est bien en sa qualité de président de la région Rhône-Alpes-Auvergne que Laurent Wauquiez sera reçu par Emmanuel Macron, exactement comme il avait reçu en tête-à-tête la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, avant d'aller à Souillac la semaine dernière.
La mobilisation des Gilets jaunes se traduit donc politiquement entre débats réels et tractations politiciennes. Certains manifestants s'organisent également pour faire de la politique. Une liste Gilets jaunes pour les élections européennes de mai prochain a été annoncée. Sa tête de liste sera Ingrid Levavasseur, l'une des figures du mouvement social. Des Gilets jaunes qui accordent une faible confiance aux médias. Cela s'est traduit par de la violence par certains lors de manifestations. Cela se traduit maintenant dans les chiffres. Cette confiance atteint son plus bas niveau depuis le lancement du baromètre annuel de Lacroix en 1987. L'enquête 2019, réalisée par Kantar Sofres entre le 3 et le 9 janvier dernier, cette enquête est publiée ce matin et elle est sans appel. Si la radio reste le média le mieux classé, jugé fiable par un Français interrogé sur deux, elle perd 6 points par rapport à l'année dernière, chute surtout de la presse écrite à 44% et de la télévision à 38%. Les images montées, expliquées, ne convainquent plus Audrey Dumain.
Sans surprise, les résultats ne sont pas bons. Seul un tiers des Français interrogés se disent satisfaits de la couverture médiatique des Gilets jaunes, quand une bonne moitié la juge tout simplement mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'il est très majoritairement reproché aux médias d'avoir dramatisé la situation. Une critique que Céline Pigalle, la directrice de la rédaction de BFM TV, entend.
Le caractère répétitif de certaines images a participé à nourrir une forme d'inquiétude qui existait déjà autour de ce mouvement. Et donc, il faut travailler sur l'image différemment. Est-ce qu'on utilise une série d'images plutôt qu'une seule qui revient régulièrement ? Voilà, ça c'est tout ce à quoi on va s'atteler et sur lequel on souhaite progresser.
D'autant plus que la crédibilité de la télévision ne cesse de chuter, moins 10 points comparé à l'année précédente. Paradoxalement, les journaux télévisés des chaînes généralistes restent la première source d'information sur le mouvement. La radio et les chaînes d'information en continu arrivent en deuxième position, juste devant Facebook, réseau très prisé par les Gilets jaunes. Mais le baromètre n'entre pas dans les détails, il ne mentionne pas la popularité d'autres types de médias comme Brut, des images des manifestations en direct, sans aucun montage. Jean-Marie Charon, sociologue des médias.
Le débat sur le montage me paraît tout à fait symptomatique, c'est-à-dire le montage c'est un enrichissement, c'est une manière de concentrer l'information sur les choses les plus utiles, c'est une possibilité de faire intervenir plusieurs points de vue. Et bien c'est précisément cette dimension-là qui va être rejetée. Il y a une confusion qui se révèle entre information et expression.
Autre piste de réflexion, même s'ils sont critiqués, les journalistes demeurent les premiers garants contre les infox.
Mounir Majoubi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, chargé du numérique, vous êtes l'invité des matins de France Culture. 67% des Françaises interrogées dans ce baromètre portent toujours un intérêt certain pour l'actualité. Comment promouvoir le travail journalistique via les réseaux sociaux, le numérique ?
Un des grands sujets aujourd'hui, c'est la confiance, vous l'avez rappelé, la confiance dans le journaliste, la confiance dans celui qui produit, dans celui qui m'amène l'information.
Et qui est au plus bas, manifestement.
Et qui est aujourd'hui au plus bas. Et cette confiance, elle se construit avec des preuves, elle se construit avec la transparence, mais Internet est venu tout bouleverser. Parce qu'aujourd'hui, le journaliste est en concurrence avec d'autres sources qui ne sont pas journalistiques et qui ont parfois l'air plus vraies que la vérité qui est proposée. Et je crois qu'aujourd'hui, un des grands sujets, et c'est peut-être pour ça que la radio s'en sort un petit peu moins mal que les autres, c'est cette idée que dans la radio, on signe beaucoup quand même. C'est celui qui parle, c'est celui qui porte le message. Je crois que ça est quelque chose qui va être très important dans les années à venir. Et quand on parlait d'autres médias comme Brut, par exemple, les Gilets jaunes ne disent pas « on aime bien Brut », ils disent « on fait confiance à Rémi Buisine parce que il a rendu transparent sa façon de faire et dit c'est moi qui porte cette caméra sans la monter, mais c'est moi qui la porte. Je crois que beaucoup aujourd'hui auront à gagner à expliquer qui ils sont et ce qu'ils font. Mais je dois vous le dire, dans toutes mes rencontres que j'ai faites à travers la France, on me pose beaucoup de questions sur comment on gouverne et la distance qu'on a avec le quotidien. Mais les journalistes qui m'entourent reçoivent les mêmes questions et parfois même un peu plus violemment.
La transparence donc dans les médias, quelle solution pour une meilleure relation entre le public et les médias ? C'est aussi le sujet du hashtag qui sera diffusé demain matin sur France Culture. Vous pouvez encore témoigner sur les réseaux sociaux grâce au mot-clé « Mon journalisme idéal » Mounir Majoubi. Nous vous retrouvons dans 5 grosses minutes. Juste le temps pour moi de me pencher sur les députés La République En Marche qui vont peut-être se séparer d'une des leurs aujourd'hui à la Assemblée nationale. Agnès Thil, élue de l'Oise, a comparé lundi soir la souffrance des femmes seules qui souhaitent une procréation médicalement assistée à celle des droguées. Voilà ses mots. Ce n'est pas la première fois que ces propos choquent. De là à dire qu'elle sera exclue du parti, le pas est encore un peu grand, Rosalie Lafarge.
Ils sont au moins d'accord sur un élément, les députés de la majorité.
Je regrette certains de ses propos, bien évidemment.
Je ne partage pas du tout ses propos.
Mais au-delà de ça, ça se divise. Deux lignes au sein des députés En Marche. La première, le maintien d'Agnès Thil au sein du groupe, défendu par Jean-Baptiste Djebbari, le porte-parole des marcheurs à l'Assemblée nationale.
Est-ce qu'on doit absolument s'ériger en police de la pensée dès lors qu'il y a des opinions qui sont parfois un peu périphérique à la pensée du groupe, je ne crois pas. Et je crois que le débat en interne du groupe, il doit permettre de forcément de purger, mais de faire converger les opinions vers une position de groupe.
Sauf que le problème, pour une quinzaine de députés En Marche signataires d'un courrier, ce n'est pas la position d'Agnès Thil sur la PMA, à l'opposé de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Non, ce sont ses multiples déclarations polémiques sur l'absence de genre dans le mot parent qui favoriserait l'éclosion d'écoles coraniques, sur le supposé lobby LGBT à l'Assemblée nationale, qui lui a d'ailleurs valu un avertissement du groupe. Cette fois, ça suffit, estime son collègue Mathieu Orphelin.
Il ne s'agit pas de faire la police des idées. Il s'agit de dire à un moment, par contre, il y a des choses qui sont non négociables. Ce qui me pose problème, c'est un certain nombre d'expressions fortes à caractère homophobe ou discriminatoire. Là, on est sur un certain nombre de paroles qui ont été frontalement percutées les valeurs que nous portons. On ne peut pas faire comme si il s'était rien passé.
Sans prononcer le mot exclusion, le député réclame une sanction forte. Le président du groupe à l'Assemblée, Gilles Legendre, est-il prêt à le suivre ?
Le cas Agnès Thil, il sera réglé comme il se doit, c'est-à-dire à l'abri des médias.
Agnès Thil, elle, nie être homophobe, raciste ou islamophobe et demande au président du groupe de ne pas participer à l'entreprise tendant à stigmatiser les voix discordantes au sein de la majorité.
Et la décision à propos d'Agnès Thil est attendue ce matin à l'Assemblée nationale. Le temps de ce jeudi s'annonce plus calme dans l'ensemble avec le retour de belles éclaircies et de gros nuages sur le quart nord-est du pays. Attention au verglas ce matin encore en Corse et au risque d'avalanche sur les Pyrénées. Il fait moins 4 degrés à Nancy, moins 2 à Besançon, 0 degré en région parisienne, 1 à Nantes et Lyon, 2 à La Rochelle, 6 degrés à Nice.